Là-dessus arrivèrent ses disciples qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que cherches-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée, car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Lorsqu'il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils, qui était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus produisit encore ce 2e signe après être venu de Judée en Galilée.
Merci Sophie. Dimanche dernier, Wissam nous a parcouru avec nous le texte de cette rencontre d'une Samaritaine avec Jésus, une rencontre qui l'a bouleversée, elle. Jésus a su mettre le doigt sur son insatisfaction et relever combien elle avait besoin d'un sauveur. Elle en est bouleversée et là, on voit que d'autres le seront aussi à sa suite. Le texte de ce soir, il se divise assez naturellement en 2 parties. Et dans un premier temps, toujours en Samarie, on voit dans la peau de ses disciples, une difficulté. Ils ont de la peine à voir les changements conséquents, les bouleversements qui sont en train de s'opérer chez ces Samaritains. Et dans un deuxième temps, en Galilée, là d'où Jésus vient, on le voit face à une certaine incrédulité et on a de la peine à voir comment la foi, elle, va pouvoir naître. Des défis dans les 2 cas, dans les 2 situations, il y a des défis. Je ne sais pas si vous avez été frappé ou probablement. Moi, j'étais à la recherche de ça, donc ça ne vous a peut-être pas frappé. Mais quand on pense aux défis, je trouve marrant de voir que l'expression qui revient souvent, c'est « il va falloir ». Par exemple, le député PS sur les emplois d'avenir, cette semaine, disait « Il va falloir cravacher pour atteindre l'objectif. » Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'êtes pas en train de regarder. Enfin, vous allez peut-être le regarder tout à l'heure, en fait. Mais le match de basket, Tony Parker disait, par rapport au défi de ce soir, « Il va falloir aller la chercher, cette médaille. » Au foot, vous savez bien sûr, chacun d'entre vous, qu'il y a Monaco qui va jouer contre PSG. Vous le saviez, mesdames, bien entendu. Et là, Obadi, un joueur monégasque, dit « Il va falloir faire un gros match. Il va falloir. » Eh bien, je reprends l'expression pour poser deux questions. Qu'est-ce qu'il va falloir pour voir le fruit dans la première partie? Qu'est-ce qu'il va falloir pour croire en lui dans la deuxième? Qu'est-ce qu'il va falloir pour voir du fruit? Et ensuite, on verra la deuxième partie. On va commencer avec une petite séquence nostalgie. C'est une photo de mon père. Et cette photo... lié aussi à son parcours et est lié aussi à ce texte. Il est né en Irlande du Nord. Sa passion, quand il était jeune, probablement à peu près au moment où la photo a été prise, où démarre ses études, sa passion, à lui, c'était les jeux de cartes, de jouer, poker, différents jeux. Jeux de hasard aussi, il aimait bien parier. Mais sa passion... elle a radicalement changé en peu de temps. Déjà, tout commence au moment où il fait ses premiers pas dans une église. Il entend un message, le message de l'Évangile, et il en est lui aussi bouleversé. Et à partir de là, sa passion à lui, ça va être d'enseigner la Bible aux enfants. Il a 18 ans, lui, quand il saisit ce message, et il se dit que des enfants, eux, pourraient l'entendre plus tôt. Deux ans plus tard, il lit le passage que nous avons lu ce soir et il est frappé par ces paroles « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. » Avec le soutien des responsables de son église, il va se former ici en région parisienne, à La Morlaix. Il rencontre ma mère, tous deux se marient. Et je vous raconte pendant l'heure qui suit le reste de l'histoire. Non. Il travaille pendant 7 ans à Lyon et puis ensuite 40 ans en Suisse. Toujours avec ce désir d'enseigner la Bible aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a de motivant dans ces paroles de Jésus? Levez les yeux, regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Qu'est-ce qu'il veut dire déjà? Qu'est-ce qu'il entend par là? Lorsqu'il dit à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Est-ce qu'il les invite à regarder effectivement des champs qui sont là et qu'il faut regarder, qui sont prêts à être récoltés? Ou est-ce qu'il est en train de les inviter à regarder ces Samaritains qui vont venir à sa rencontre suite à la bonne nouvelle que cette femme a annoncée dans le village? C'est difficile de dire. Dans le sens, en tout cas, il a véritablement l'idée que ces Samaritains-là, ils sont prêts à entendre, prêts à découvrir cette bonne nouvelle. Ils sont prêts pour cette moisson. Mais on va reprendre le fil du texte et commencer au début avec la perspective des disciples. Ils sont partis pour chercher de la nourriture dans la ville et ils reviennent, ils voient Jésus qui parle avec une femme. Et là, pour eux, on retrouve les obstacles que Wissam a mentionnés dimanche dernier. Déjà, un enseignant qui prend du temps avec une femme à cette époque-là, il perd son temps. Désolé mesdames, mais à l'époque c'était ça. Une Samaritaine encore. Jésus, il n'a aucun problème avec des préjugés sexistes et il va bel et bien prendre du temps avec cette âme. Il a pris du temps avec elle. Et les disciples, ils n'ont même pas le courage de lui poser la question, mais lui, il a bel et bien cet entretien en profondeur avec cette femme. De son côté à elle, et elle, avec tout ce qu'elle a entendu, elle repart, elle laisse sa jarre, elle va à la ville en parler. « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-ce le Christ ?» Et Jean revient sur les disciples et Jésus. Ils proposent à Jésus de manger. Après tout, c'est pour ça qu'ils sont allés en ville, pour lui chercher de la nourriture. Mais ils refusent. « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et là, les disciples, ils commencent à se demander si quelqu'un lui a donné à manger. Comme on le retrouve à plusieurs endroits, Jésus, il aime bien entrer dans un deuxième niveau. « Ma nourriture, verset 34, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, ce qui le fait vivre, c'est d'accomplir la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé. Des termes chargés qu'on va retrouver par la suite dans l'Évangile, dans une prière qu'il adresse à son Père le soir avant d'être livré, on lit ceci. Ça, c'était plutôt la parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et si vous étiez privé de repas ce soir, pas de dessert, tout le monde au lit. Ça vous rappelle des souvenirs, des mauvais souvenirs? Et pas seulement ce soir, en fait. Ce sera demain aussi. Vous êtes privé de repas demain aussi. Mais on dirait, mais à un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on reprenne le chemin des assiettes, il faudra bien qu'on mange. Pardon. Ici, ce que Jésus dévoile, c'est que pour lui, accomplir la volonté de son Père, c'est aussi essentiel que de manger. C'est incontournable, à un moment ou à un autre, il voudra, il fera la volonté de son Père. Et c'est là la première réponse. Qu'est-ce qu'il va falloir? Mais il va falloir reconnaître l'aspect fondamental de l'œuvre de Jésus. Il est en train de faire quelque chose de fondamental, là. Il accomplit la volonté de son Père. Et ici, il se préoccupe du salut de ses Samaritains. Pour voir le fruit, il va falloir reconnaître son œuvre à lui. Mais il va falloir aussi reconnaître les principes de la moisson. Et Jésus poursuit en disant, au verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. » Alors, il n'est pas en train de nous donner des conseils en agriculture, Jésus. Mais il est tout simplement en train de mettre en évidence certains principes de la récolte. 3 principes. La première chose qu'il fait, c'est d'inviter les disciples à reconnaître qu'une moisson est en train d'avoir lieu alors qu'ils n'étaient pas encore prêts à la voir. Elle est sur le point d'avoir lieu. Beaucoup plus rapidement que prévu, elle va avoir lieu. Le deuxième principe qu'il met en évidence, c'est que s'il y a une joie pour celui qui récolte, au moment de la moisson, s'il y a de la joie, il y a de la joie aussi pour celui qui a semé. Troisième principe, c'est qu'il est important de reconnaître l'importance de celui qui a semé. Mardi dernier, on était à la sortie semée, dont vous entendrez parler tout à l'heure, pour faire des questionnaires à la gare Montparnasse. Mais comme il pleuvait, il y a une dans le groupe, je tairai son nom, Claire Racoupion, mais qui a proposé, si je crois que c'était toi, qui a proposé de distribuer des évangiles plutôt que de faire des questionnaires puisqu'il y avait la pluie. Et quand on pense, là, il y a une quarantaine d'évangiles ont été distribués, combien d'entre eux est-ce qu'on va revoir de ces personnes à qui on a donné des évangiles ici à la RDS, des gens qui transitaient à Montparnasse ce soir-là, combien d'entre eux est-ce qu'on va voir? Combien d'entre eux, de centaines déjà qu'on a questionnés, est-ce qu'on va revoir? Alors c'est vrai, il y a quelques-uns qui sont revenus ici. Mais il y a bel et bien un travail de semence où il est difficile encore pour le moment d'envisager la suite. Cet été, il y a un collègue pasteur qui est venu nous donner un coup de main pour notre aménagement. Et pendant ces jours-là, il a reçu un email d'une femme d'une autre église. Et dans ce mail, elle lui faisait part d'une bonne nouvelle au sujet d'une dame qui avait récemment rejoint l'église et reconnu qu'elle avait cru en Jésus. 5 ans plus tôt, ce pasteur, ce collègue et un ami avaient fait des distributions de l'évangile de Marc dans les environs. Et cette dame l'a reçu, cet évangile de Marc, le jour où son frère est décédé. Elle est interpellée par ce qu'elle vit, elle le lit. Par la suite, elle fait la connaissance d'une voisine qui, elle aussi, est croyante. Petit à petit, elle chemine. 5 ans plus tard, il y a ce mail, il ne l'a jamais rencontré. Mais il y a eu cette semence, cet évangile donné en temps voulu. Et il y a une joie commune, un principe de joie commune entre celui qui sème, qui labore mais qui ne voit pas, et celui qui va moissonner. Et au verset 38, Jésus fait référence à un travail antérieur, quelque chose qui a déjà eu lieu et Quand on a lu l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 23, on est invité à s'interroger, est-ce que c'est peut-être Jean-Baptiste qui est mentionné et qui a œuvré dans cette région ? Ce même principe qu'on va retrouver par la suite, au-delà de la mort et de la résurrection de Jésus, dans les Actes, cette même région va voir un évangéliste, Philippe, venir et voir de nombreuses personnes se tourner vers Jésus. Il va falloir voir les principes de la moisson à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il va falloir voir encore ? Il va falloir reconnaître qu'au-delà du rôle de témoin, c'est la relation de chacun à Jésus qui compte. Il y a de nombreux Samaritains qui vont croire en Jésus sur la base de ce témoignage de cette femme qui leur en a parlé. Mais il y a une remarque intéressante de Jean par la suite où il dit « Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Elle a joué un rôle important dans le témoignage, très important. Tout le monde le reconnaît, et pourtant, ceux qui ont cru avaient besoin eux-mêmes de faire la rencontre avec Jésus, eux-mêmes d'entendre sa parole. Si nous sommes chrétiens ce soir, et si nous sommes désireux d'avoir ce témoignage auprès d'autres, il faut reconnaître qu'on veut avant tout leur permettre à eux d'entendre cette parole de Jésus. Ce serait tentant, en tant que témoin, de vouloir mettre l'accent sur nos expériences, notre bagage, ce que nous avons vécu. Mais c'est la parole de Jésus dont les gens ont besoin. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'ils expérimentent eux-mêmes cette parole. Qu'est-ce qu'il va falloir pour le fruit ? Je suis dans la séquence nostalgie, hein, je suis désolé, c'est la soirée nostalgie. Mais cet homme, il est décédé il y a 2 ans, mais c'est un pasteur et un enseignant au Brésil. Et je me souviens l'avoir rencontré en 2000, juste avant d'entamer mes études en théologie. Et il m'avait marqué par son attachement à Dieu, sa piété, son authenticité aussi, son zèle pour l'annonce de l'Évangile. Et je me souviens qu'après cette rencontre, je lui avais écrit une lettre avec une question qui me troublait sur le moment. La question était la suivante. Comment se fait-il que je vois si peu de fruits de l'Évangile autour de moi. En pensant à ce rôle de témoin, comment se fait-il que je vois si peu de fruits dans ce désir de rendre témoignage ? Et je ne sais pas trop ce que j'attendais comme réponse. Une expérience, des principes, une astuce. Mais je me souviens d'une réponse simple, directe, qu'il m'a envoyée. Toute personne qui veut porter du fruit doit réaliser que sans Jésus, on ne peut rien faire. Il reprenait ces paroles que Jésus lui-même donne dans cet évangile de Jean au chapitre 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avec l'image d'une vigne où nous sommes les sarments, il est le cep. « Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il va falloir reconnaître l'œuvre fondamentale de Jésus, les principes de la moisson, et qu'au-delà du rôle de témoin, c'est la relation de chaque personne à Jésus qui est déterminante. D'accord, imaginons qu'on reconnaît tout cela, qu'on arrive à voir tout cela en tant que témoin. Est-ce qu'il s'agit d'une formule recette et à partir de là, boum, les fruits sont là. Beaucoup de gens qui vont vivre cette transformation dans leur vie. La deuxième partie de notre texte, elle dévoile certains défis dont il faut tenir compte. Qu'est-ce qu'il va falloir pour croire en lui ? Qu'est-ce qu'il va falloir pour croire en lui ? Le premier élément, c'est qu'il va falloir aller au-delà des présupposés. Écoutez ce qu'on lit au verset 43, enfin, si vous voulez le suivre, c'est au verset 43. Après ces 2 jours, il partit de là pour se rendre en Galilée. Car Jésus lui-même a témoigné qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Pourquoi ce commentaire ? Pourquoi est-ce que Jean nous glisse ce commentaire sur un prophète qui n'est pas honoré dans son pays ? On le retrouve ailleurs dans la bouche de Jésus et on réalise que souvent, c'est quand il est justement chez lui et que les gens ne croient pas à son message. On le voit comme le fils de Joseph, celui qui a grandi, le petit jeune du coin. Et on a de la peine à s'imaginer. Lui, le Messie ? Tu plaisantes ? Nos présupposés ne sont peut-être pas les mêmes, mais ils sont bel et bien là. Il y a 15 jours, toujours dans ces discussions à Montparnasse, je me souviens d'une discussion avec un homme de la quarantaine, semble-t-il avait fait de bonnes études, et je lui pose des questions au sujet du christianisme, et il me répond du tac au tac, les évangiles ont été falsifiés. Alors je lui demande, est-ce que vous avez lu un évangile ? Non. Est-ce que vous avez lu des articles qui ont abordé le sujet et qui vous ont permis de voir les arguments pour et contre sur cette question-là ? Non. Mais pour lui, c'était clair, les évangiles ont été falsifiés. Le but pour un questionnaire comme ça, ce n'est pas d'avoir un sale quart d'heure à passer pour les autres. Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin après dans les questions et de demander, mais à quel moment alors est-ce qu'ils ont été falsifiés ? Compte tenu du nombre de manuscrits qu'on a, du rayon d'action dans lequel on les a trouvés, des similitudes, et des immenses similitudes entre ces manuscrits et une date de rédaction courte, à quel moment est-ce qu'ils ont été falsifiés ? Pour croire en Jésus, il va falloir aller au-delà des présupposés. Mais quoi d'autre ? Il va falloir aller au-delà de nos attentes du faiseur de miracles. Pourquoi le dicton « Nul n'est prophète en son pays » est-il donné ? Parce que quand vous regardez le verset 45, on lit « Les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. » Alors, il est accueilli ou il n'est pas accueilli ? Il est accueilli ou il n'est pas accueilli ? On va le voir à plusieurs endroits dans cet évangile de Jean. Il y a de l'ironie dans sa manière de rédiger. Jean vient de nous dire qu'on ne reçoit pas Jésus chez lui en tant que prophète. Et ensuite, il nous dit qu'il est accueilli. Et il nous faut voir un peu d'autres indices que Jean glisse. Un autre indice, c'est par exemple de voir qu'on se retrouve à la fin d'une boucle. Il y a une boucle dans le récit. Si vous regardez le chapitre 2, verset 11, on voit que Jésus a déjà accompli là, à Cana, en Galilée, un premier signe miraculeux. Et à la fin de notre section, on découvre, toujours à Cana, en Galilée, un deuxième signe miraculeux. Et dans les deux cas, Jean relève qu'il y a un certain intérêt pour Jésus. Il y a de l'intérêt, mais il est superficiel. Dans les deux cas, on s'intéresse à lui en tant que faiseur de miracles. Quelqu'un ici pourrait dire, mais on pourrait déjà, il peut déjà être content si on s'intéresse à lui, après tout, non ? Le commentaire de Jean, la première fois, doit nous aider. Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus ne se fiait pas à eux. Autrement dit, il n'a pas confiance en ceux qui croient seulement dans ses miracles. Il veut qu'on croie en sa parole. Il ne se fie pas à ceux qui croient simplement au miracle. Il va falloir aller au-delà du faiseur de miracles. Et ce qui nous amène au dernier point, aller au-delà de ce qu'on voit. Dans le contexte qu'on vient de décrire, il s'agit d'une autre rencontre, une rencontre avec un officier royal dont le fils était malade. Un homme d'une certaine importance, il était probablement au service d'Hérode Antipas. Cet homme entend parler de Jésus et il a un fils qui est sur le point de mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ça c'est l'occasion de le guérir, mon fils. Et qui ne le ferait pas ? Si vous étiez dans cette situation, est-ce que si vous entendez parler de quelqu'un qui peut guérir des gens malades, est-ce que vous ne diriez pas, il faut qu'on tente notre chance ? Mais Jésus dit quelque chose à cet homme et aux autres personnes qui l'écoutent, qui doit nous interpeller. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Il y a une soif pour le miraculeux chez cet homme, mais aussi chez les autres personnes. Une soif du miraculeux qui est peut-être chez nous aussi. Si je dois croire en Jésus, je m'attends qu'il se révèle à moi, non ? Comment est-ce que je pourrais croire à ce que je ne vois pas ? Combien de fois on a entendu « je crois qu'à ce que je vois » ? Pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas à moi davantage ? Davantage de miraculeux, justement. Alors, il ne faut pas se méprendre. Si Jean met ces miracles dans son livre, c'est qu'il pense qu'elles sont importantes pour nous mener à l'identité de Jésus. Mais remarquez comment il les appelle, lui. Il les appelle des signes miraculeux. C'est sa particularité à Jean. Pas simplement un miracle, c'est un signe miraculeux, avec un sens. Parce qu'il veut qu'on s'assure qu'au-delà du miracle, on comprenne ce qui est en train de se passer. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que ce passage nous aide à comprendre au sujet de l'identité de Jésus? Alors regardez comment ça se passe. L'officier vient vers Jésus et il le place devant une demande qui ressemble un peu à un ordre, lui qui est officier. « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Descends avant que mon enfant ne meure. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Est-ce qu'il lui répond « Qu'est-ce que tu as à me donner des ordres, toi ?» Ou alors, tu ne comprends pas à qui tu t'adresses? C'est terminé, je ne vais pas répondre à ta demande. Non, il va lui répondre, va, ton fils vit. Va, ton fils vit. On peut noter qu'il fait preuve de compassion, il sait la détresse de cet homme et il veut répondre à sa demande. Mais on peut aussi constater qu'il lui donne lui-même un ordre, va. Et il est en train de placer cet homme devant un choix qui n'était pas la configuration qu'il avait imaginée. Il demandait à Jésus de venir guérir son fils et donc il allait tout simplement le suivre, aller avec lui. Mais là, Jésus lui dit « Va ». Et si vous êtes dans sa peau, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez croire à ce que Jésus vient de dire? Ton fils est guéri? Ton fils vit? Ou est-ce que vous n'allez pas le croire? Est-ce que vous allez recevoir cette parole et « Ok, je rentre tout seul à la maison et je vais voir si mon fils vit. » Ou est-ce que je vais m'assurer que Jésus vienne avec moi? Il faut qu'il vienne avec moi pour le guérir. Il le place devant la question de la foi et il prend sa décision. Au verset 50, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Et c'est en route qu'il apprend que son fils a bel et bien été guéri. Et en plus, qu'il a été guéri au moment où Jésus a dit cette parole. Le constat, c'est que cet homme devint croyant, lui et toute sa maison. Jésus l'a poussé. Jésus l'a poussé à aller plus loin que la simple demande d'un miracle. Il y a ici, comme pour les Samaritains, l'importance donnée à sa parole plus qu'au miracle. Parce que sa parole est digne de confiance. Et c'est l'occasion de vous poser la question, de nous poser la question. Est-ce que je vais aller au-delà de la recherche d'une expérience, d'une intervention miraculeuse de sa part, et le connaître, lui, sa parole? Est-ce que je vais être prêt à saisir qui il est vraiment et croire en sa parole? Parce qu'il va falloir aller au-delà de ce qu'on voit. Alors en entendant tout ce qu'on a dit, il va falloir, vous avez peut-être fait la liste. Ça fait une grosse liste et on se dit, mais c'est difficile, non? Il va falloir faire ça. Est-ce que la difficulté, elle se trouve dans les choses à faire? Non, elle ne se trouve pas dans les choses à faire. La difficulté, elle se trouve dans les obstacles que nous avons à croire, à voir. Ce n'est pas comme s'il fallait se retrousser les manches et se dire « Allez, c'est parti, j'y vais. » Jésus nous appelle à une foi toute simple. C'est peut-être là la difficulté, justement. Et s'il la demande, cette foi, c'est dans la mesure où il a fait tout ce qu'il fallait. C'est lui qui a accompli la volonté de son Père jusqu'au bout. C'est lui qui, par sa parole, donne la semence. C'est lui qui va à la rencontre de chacun. C'est lui qui est en mesure de bousculer nos présupposés. C'est lui qui nous interpelle dans nos mauvaises attentes. Et c'est lui qui nous pousse à aller au-delà de ce qu'on voit. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous vois et tu nous connais. Et tu sais ce dont nous avons besoin ce soir. À chacun d'entre nous, les défis qui sont les nôtres, soit les présupposés, soit les craintes, soit l'incrédulité. Nous te prions que tu nous accordes la grâce d'être poussés plus loin. Et pour l'un ou pour l'autre ici, le désir de partager cette bonne nouvelle à d'autres, ce désir de voir les choses comme toi, tu les vois. Pour d'autres, la nécessité de croire en Jésus, en sa parole. Et nous te prions que tu nous accordes ces grâces au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.